VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Biron, bonjour à tous. Il est midi à Bangui. Un accord de paix entre le pouvoir et 14 groupes armés qui contrôlent 80% du territoire de la Centrafrique a été paraphé hier à Khartoum, relançant les espoirs de paix dans ce pays pauvre, meurtri par des années de conflit. Cet accord de paix, le 8e depuis 2012, avait été obtenu samedi après une dizaine de jours de négociations à Khartoum sous l'égide de l'Union africaine. Son contenu restait toujours inconnu. Il ne sera rendu public qu'après la signature proprement dite prévue à Bangui dans les prochains jours selon les autorités centrafricaines. Le groupe armé opposé à N'Djamena est entré en début février dans le nord du pays à partir de la Libye, affirme toujours être en territoire tchadien malgré l'intervention militaire de la France, mais ses objectifs et son importance restaient encore flous aujourd'hui. Le groupe affirme être entré au Tchad avec trois colonnes distinctes de pick-up armés, dont une a été frappée dimanche par des Mirage 2000 français à la demande des autorités tchadiennes. Lundi, la France a affirmé que la colonne visée comportait 40 pick-up qui avaient fait une incursion profonde à partir de la Libye. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa prononce demain jeudi son discours annuel sur l'état de la nation dans un climat rendu électrique par l'approche des élections demain et les scandales de corruption qui continuent à éclabousser son parti. Mise en perspective, Idrissa Seydou Dia.
Il y a un an, M. Ramaphosa avait profité de sa première grande allocution devant le Parlement pour annoncer un nouveau départ à son pays, quelques jours après la démission de son encombrant prédécesseur Jacob Zuma. Les promesses du nouveau chef de l'État sud-africain sur la relance de l'économie et la fin de la corruption avaient alors été saluées sur tous les bancs, une première depuis des années, alors que les allocutions de M. Zuma donnaient souvent lieu à des scènes de chaos dans l'hémicycle. Mais faute de résultats tangibles, la deuxième prestation de M. Ramaphosa devant les députés s'annonce moins consensuelle. Malgré d'ambitieux plans de mobilisation, l'économie sud-africaine continue à patiner et le chômage reste endémique. Le bilan de M. Ramaphosa s'annonce tout aussi mitigé dans la guerre engagée contre la corruption. S'il a remercié quelques-uns des ministres et des patrons d'entreprises publiques les plus sulfureux de l'ère Zuma, son parti, le Congrès national africain, ne parvient pas à se défaire des scandales. M. Ramaphosa se fait aussi observer de près à l'étranger. La presse vient de publier une note signée de 5 pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, lui recommandant un engagement sans faille contre la corruption, faute de quoi aucun investisseur ne s'aventurera en Afrique du Sud.
L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade a appelé mardi la population à s'opposer pacifiquement à la tenue le 24 février de ce qu'il appelle une présidentielle verrouillée pour reconduire son successeur Macky Sall. Dans une vidéo diffusée 3 jours après le début de la campagne officielle, Abdoulaye Wade a dénoncé l'élimination par le Conseil constitutionnel, je cite, sous des prétextes fallacieux de deux candidats qui pouvaient faire de l'ombre au président sortant, son propre fils Karim et l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, tous deux frappés par des condamnations judiciaires. M. Wade, âgé de 92 ans, a dans cette vidéo évoqué son prochain retour au Sénégal annoncé pour demain jeudi par son entourage, mais sans confirmer la date. Les chefs d'État du G5 Sahel réunis pour un sommet mardi à Ouagadougou ont redemandé un effort notamment financier des Nations Unies alors que 5 gendarmes ont été tués le même jour dans le nord du Burkina Faso. Les chefs d'État plaident dans la faveur d'une coopération plus étroite entre le G5 Sahel et les Nations Unies et réitèrent leur demande de placement de la force conjointe du G5 Sahel sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Le chapitre 7 autorise le recours à la force, mais prévoit aussi des mesures si un État se trouve en présence de difficultés économiques particulières. Les 5 pays membres du G5, Burkina, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, faisant partie des pays les plus pauvres au monde. Des hommes armés ont tué 26 personnes dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, théâtre d'opération de nombreuses bandes criminelles, a annoncé mardi la police. 11 autres personnes ont trouvé la mort dans une attaque distincte dans le village de Batona, dans la région de Bukuyum, selon toujours la police, mais les circonstances restent floues en l'absence de réseaux de télécommunications fonctionnels et parce que cette zone isolée n'est reliée au monde extérieur que par des routes en très mauvais état. Le dirigeant rebelle du Soudan du Sud, Riek Machar, prévoit de revenir à Juba en main en application de l'accord de paix de septembre 2018 qui représente la meilleure chance de mettre un terme à la guerre, a confirmé mardi l'émissaire de l'ONU pour le Soudan du Sud, David Shearer. Le chef de la mission de paix de l'ONU au Soudan du Sud a rencontré la semaine dernière Riek Machar, exilé à Khartoum, afin de parler de la formation d'un gouvernement de transition avant les élections. À Washington, D.C., il est 6h05.
Nos infos sur voaafrique.com.
Jean-Roger Billon à ce micro. Nous émettons de Washington. Les sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord sont inefficaces, juge un rapport d'experts, selon lequel Pyongyang utilise des aéroports et d'autres bâtiments civils pour son programme de missiles afin d'éviter des destructions lors de possibles frappes préventives. Ce rapport survient alors qu'un deuxième sommet est prévu entre le dirigeant américain et nord-coréen Donald Trump et Kim Jong-un. Il se tiendra les 27 et 28 février au Vietnam, a annoncé mardi le président américain. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés le 12 juin 2018 à Singapour. Face au Congrès réuni au grand complet, le président américain Donald Trump s'est posé mardi en rassembleur pour le traditionnel discours sur l'état de l'Union. Le président républicain a lancé un appel au compromis dans une allocution à la tonalité plutôt sobre, à l'exception d'un long passage sur l'immigration et les sans-papiers criminels. Anne Alberson.
Si le président Donald Trump a une nouvelle fois affirmé que le mur à la frontière avec le Mexique serait construit, il n'a finalement pas, comme il l'avait laissé entendre, déclaré une urgence nationale, procédure exceptionnelle qui lui permettrait de contourner le Congrès. À 21 mois de la prochaine élection présidentielle, où il entend briguer un second mandat, le président républicain a mis en avant de très bons chiffres économiques et un marché du travail extrêmement dynamique.
Après 24 mois de progrès rapide, notre économie fait l'envie du monde entier. Nos forces armées sont les plus puissantes au monde de loin. Et les États-Unis.
America is again winning
les États-Unis,
and every day.
Une fois de plus, l'emportent au quotidien.
Members of Congress, the state of our union is
chers membres du Congrès, l'état de notre union est solide.
Le président américain a aussi profité de ce rendez-vous pour annoncer le lieu et la date de son prochain sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui aura lieu les 27 et 28 février au Vietnam. Le 45e président des États-Unis a conclu son discours sur une tonalité rassembleuse. Nous devons choisir si nous nous définissons par nos différences ou si nous avons l'audace de les transcender. Fin de citation.
Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido, reconnu président du Venezuela par une quarantaine de pays, tente d'organiser l'arrivée d'une aide humanitaire internationale défiant le chef de l'État Nicolas Maduro, qui y voit le prélude d'une intervention militaire. À Caracas, le Parlement présidé par M. Guaido, et qui est la seule institution vénézuélienne contrôlée par l'opposition, a approuvé mardi un plan stratégique pour la distribution de vivres et de médicaments depuis la Colombie et le Brésil. La Croix-Rouge vénézuélienne s'est dite prête à distribuer de l'aide humanitaire, mais une fois qu'elle sera entrée au Venezuela. Amnesty International a accusé aujourd'hui les Émirats arabes unis, engagés militairement au Yémen, de fournir des armes de pointe, notamment d'origine occidentale, à des milices yéménites quelques heures après des inquiétudes exprimées sur ce même sujet par un haut gradé américain. Le général Joseph Votel, chef des forces américaines au Moyen-Orient, a fait part de ses préoccupations à des sénateurs après une enquête de la chaîne CNN, selon laquelle des équipements fournis par Washington à l'Arabie Saoudite et aux Émirats avaient été utilisés par des milices au Yémen qui n'en étaient pas les destinataires. Et puis, le gouvernement de Kaboul doit être inclus dans les discussions entre les États-Unis et les talibans si l'on veut que les efforts en vue d'un accord de paix réussissent, a affirmé hier un général américain. Mais les talibans considèrent le président Ashraf Ghani et son gouvernement comme des marionnettes américaines. Mardi à Moscou, ils ont rencontré des politiciens afghans ne faisant pas partie du gouvernement. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque pour un nouveau journal. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.